Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la Tribune de l'Art, une émission à la programmation un peu erratique pour les questions de temps, mais dans les semaines et les mois à venir, j'espère pouvoir en faire davantage. Et pour ce nouveau numéro, je reçois le général Dandoc. Bonjour mon général.
Bonjour.
Le général Dandoc, que j'ai connu lorsqu'il était directeur du musée de l'armée, donc il est dans la culture et dans le patrimoine depuis déjà quelques temps. Mais avant, il était militaire, il va nous raconter comment et comment il est arrivé au musée de l'armée. Et désormais, il est directeur patrimoine et culture du Fonds du bien commun, dont il va nous expliquer quel est l'objectif et ce qu'il y fait. Voilà. Maintenant, je vous laisse la parole, mon général, pour nous expliquer comment vous êtes, après une carrière militaire, comment vous êtes arrivé au musée de l'armée et ensuite au Fonds du bien commun.
Alors d'abord... La direction du musée de l'armée a été une étape dans mon parcours et dans ma carrière militaire qui s'est achevée le 30 octobre dernier, au moment où j'ai rejoint effectivement le Fonds du bien commun dont on parlera tout à l'heure. Ma carrière militaire, elle a démarré en 1985, quand j'ai passé le concours de Saint-Cyr et que j'ai réussi et donc rejoint l'école spéciale militaire à Couët-Quidan et déroulé une carrière dans l'armée de terre, dans la cavalerie plus particulièrement. Un début de carrière à l'époque où on nous préparait à être engagé face au pacte de Varsovie. Pour moi, cavalier léger à l'époque, à me rendre le plus rapidement vers le rideau de fer. Après, j'ai connu la professionnalisation des armées, premier engagement en opération extérieure. Moi, c'était l'époque des Balkans où j'étais engagé au Kosovo et puis ensuite en Côte d'Ivoire après le coup d'État de 2002, donc juste après, en janvier 2003, pendant 6 mois. Entre ces périodes, des affectations à Paris, en état-major, en direction centrale, dans le domaine plutôt des ressources humaines et puis ensuite ce qu'on appelle le politico-militaire, donc auprès des grands chefs des armées, notamment auprès du général de Villiers quand il était vice-chef d'état-major ou auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère des armées. Et en 2016, alors que j'étais à la tête de l'école de cavalerie à Saumur, un soir, mon assistante me prévient que le chef d'état-major de l'armée de terre va m'appeler. Alors je pensais que c'était pour une question très concrète suite à une fiche que j'avais faite sur le Charles Leclerc et que j'avais envoyée à l'état-major. Mais ce n'était absolument pas le sujet. Le chef d'état-major de l'armée de terre m'a appelé parce que le général Baptiste, qui avait dirigé le musée de l'armée pendant un peu plus de 5 ou 6 ans, avait été nommé délégué pour l'ordre de la libération et donc il n'y avait plus de directeur au musée de l'armée. Il cherchait un directeur, non pas un directeur général en non-activité ou en deuxième section comme on le dit, mais un général en activité. Et après avoir regardé un peu, fait le tour de tous les généraux susceptibles d'eux, voilà, on lui avait soufflé mon nom comme quelqu'un qui était intéressé par les questions de culture, de patrimoine, d'histoire de l'art et éventuellement des vieilles pierres. Donc c'était un peu mon jardin secret que quelques camarades connaissaient, mais dont je ne faisais pas forcément état régulièrement et ouvertement. J'ai pesé cette proposition et puis répondu favorablement. Fait acte de candidature, envoyé une lettre, un projet, et été à ce moment-là, à l'été, en mai ou juin 2017, retenu et désigné comme directeur du musée de l'armée.
Et donc vous êtes resté combien de temps là-bas ?
Alors je suis resté 3 ans à la tête du musée de l'armée, 3 années passionnantes. Moi j'en garde un excellent souvenir. D'abord c'est un très grand musée au cœur de Paris, qui se situe toujours, je veux dire, en tête des grands établissements. On reçoit 1 200 000 visiteurs par an à l'époque où je suis arrivé à sa tête, et qui est un vrai musée d'histoire de France, où on parcourt 7-8 siècles d'histoire de France à travers tous les conflits qui ont émaillé notre histoire, qui ont permis d'agrandir ou de protéger le pré-carré. On y côtoie nos grands chefs militaires, nos capitaines, nos maréchaux, nos monarques, nos présidents qui ont eu à combattre, à gérer des crises. Et puis, un musée qui est installé dans un monument extraordinaire, emblématique de Paris, et fort de nombreux symboles à travers d'abord son histoire, fondée par Louis XIV pour y accueillir ses vétérans, ses officiers, après de longs et glorieux services, et qui est un exemple aussi de pérennité, de permanence. Les Invalides ont aujourd'hui encore cette même mission que celle qui avait été voulue par Louis XIV et accueillent encore des pensionnaires. Un des derniers qui a fait l'actualité il y a 15 jours, c'était l'amiral de Gaulle, qui a passé ses 2 dernières années aux Invalides, à l'Institution nationale des Invalides. Et donc, c'est un monument qui a traversé les régimes, l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire, le Second Empire, la Troisième République, et qui continue à exister et à remplir la même mission. Et puis, voilà, avec les personnalités de Louis XIV, de Napoléon qui est enterré, du général de Gaulle avec l'Historial, voilà, évoque aussi toute cette grandeur de la France.
Et c'est aussi un musée de beaux-arts, c'est ça qui m'intéresse aussi, bien sûr.
Et c'est aussi un musée des beaux-arts. On n'y voit pas que des armures, des armes, des uniformes, des décorations. C'est un musée qui a une très riche collection de beaux-arts. Ça a été voulu dès le départ, parce que le musée de l'armée est né de la réunion de deux musées. Un musée scientifique qui était le musée de l'artillerie, qui est un peu le musée des polytechniciens, et puis le musée d'histoire militaire qui était le musée de Neuville et de Dethaille, donc des peintres, et qui ont constitué cette collection, qui ont légué leur collection, constituée une partie du fonds du musée de l'armée, et qui n'a ensuite cessé de s'enrichir. S'enrichir déjà pendant la Première Guerre mondiale avec le premier directeur du musée de l'armée, le général Niox, qui a envoyé sur le front des peintres, des Maurice Denis, des Vallotton, qui ont été missionnés pour aller peindre sur le front ou à l'arrière du front, et qui donnent quelques toiles assez extraordinaires. Je pense que vous en connaissez
Oui,
quelques-unes.
on a vu certaines, par exemple, dans l'exposition 1917,
1917
au Centre
Pompidou à
Pompidou à Metz,
Metz,
qui était très belle.
oui, exactement. Et voilà, et ensuite, donc cette collection s'est enrichie et continue de s'enrichir d'ailleurs, avec des acquisitions qui sont faites régulièrement par les équipes du musée de l'armée. Quand j'y étais, on a fait quelques belles
Parmi
acquisitions.
les plus belles, dites-nous lesquelles vous ont marqué particulièrement.
Ah, parmi les plus belles, je pourrais en citer deux. Il y a le portrait de Lassalle par le baron Gérard, qui est un superbe portrait, une grande figure de l'Empire. Et puis ensuite, une œuvre, alors là, très différente plutôt, qu'elle vous serait peut-être un peu moins sensible, qui est un mobile de Calder.
Je suis un peu moins sensible, c'est vrai, mais c'est important, Calder.
Mais voilà, qui est une œuvre emblématique, qui s'appelle France Forever, qui est une œuvre qui a été réalisée par Calder quand il était exilé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il a réalisée en soutien au Comité de la France libre et qui représente une croix de Lorraine qui surplombe des formes telles qu'on peut les voir, les imaginer sur les mobiles de Calder, bleu, blanc, rouge, donc reprenant nos couleurs nationales, surplombant elles-mêmes des formes anguleuses, noires, métalliques, qui représentent les forces du mal. Voilà, donc un très fort pouvoir d'évocation. Et une œuvre qui a été classée trésor national, qu'on a pu acquérir grâce au soutien d'un mécène, parce que les œuvres de Calder étaient un peu au-dessus des possibilités budgétaires du musée de l'armée, et qui aujourd'hui est installée à l'entrée de l'Historial Charles de Gaulle.
Et donc, vous avez passé ces 3 années au musée de l'armée, et après, donc, c'est la retraite, finalement.
Alors, ce n'était pas complètement la retraite, parce qu'après ces 3 années au musée de l'armée, j'ai passé un an au cabinet de Florence Parly à m'occuper de la politique des officiers généraux, j'ai eu une dernière affectation à Metz, où j'ai été gouverneur militaire de Metz pendant 2 ans, en charge de l'engagement des militaires dans tout le quart nord-est de la France, période un peu dense d'épidémie du Covid, résilience énergétique, déclenchement de la guerre en Ukraine. Voilà, deux très belles années pour clore une carrière militaire qui m'ont permis pendant ces deux années de revenir au contact des unités de l'armée de terre en allant les visiter régulièrement sur le terrain, de jouer un rôle aussi, c'est-à-dire d'ambassadeur de l'armée de terre dans tout ce quart nord-est où il y a une très forte tradition militaire, et puis d'assurer le lien aussi vers Paris.
Et pour être parti du musée de l'armée, c'était un choix ou c'était quelque chose qui...
C'était un choix. C'était un choix. J'aurais pu rester, faire un deuxième mandat de 3 ans. Voilà, ayant été nommé officier général relativement jeune, j'estimais que je pouvais avoir d'autres responsabilités. Je ne briguerai pas un second mandat. Et je dois avouer que la dernière année était l'année de Covid. Une année un peu compliquée. J'étais content de partir sur une autre aventure sur le terrain.
Et donc, alors, vous êtes à la retraite de l'armée, je ne sais pas comment on dit, en retraite de l'armée. Et en revanche, donc, vous avez été sollicité pour prendre la direction de la patrimoine de la culture, de la Fondation du bien commun. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous parler aussi, parce que j'ai, juste avant cette émission, donc vous avez souhaité qu'on se rencontre, et j'ai été passionné par ce que vous faites, c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter. Juste avant, j'ai un petit peu regardé, vous êtes fondé donc par Pierre-Édouard Sterrin, et je vois que Pierre-Édouard Sterrin a été, dans deux articles récemment, plutôt un article en tout cas dans l'Humanité, manifestement, c'est un suppôt de l'extrême droite, ce qui n'est pas le cas. Vous allez pouvoir me rassurer.
Oui, je vais totalement vous rassurer. Alors, d'abord, peut-être deux mots sur le Fonds du bien commun.
Oui, voilà. Je parlais de Pierre-Édouard Sterrin, parce que tu es un milliardaire français. Mmh. Évidemment, déjà, quand on est un milliardaire français, c'est pas beau, parce qu'on n'a pas le droit de gagner de l'argent en France, ça c'est clair. Et donc, il donne beaucoup d'argent pour ce qu'il appelle le bien commun, c'est-à-dire pour des œuvres caritatives. Donc voilà pourquoi je parlais de cela, mais vous allez nous en dire un peu plus.
Alors d'abord, le Fonds du bien commun qui a été cofondé par Pierre-Édouard Sterrin est un nouvel acteur de la philanthropie, maintenant qui est présent depuis, implanté dans le paysage depuis 2021, et qui agit dans trois domaines. Domaine de l'éducation, de la solidarité, de la culture et du patrimoine, avec des moyens importants qui ont effectivement été apportés par Pierre-Édouard Sterrin. Pierre-Édouard Sterrin est d'abord un entrepreneur qui a réussi, qui a fait fortune avec certaines des entreprises qu'il a créées, notamment Smartbox. C'est aussi un investisseur. Et puis, c'est un philanthrope qui a décidé de consacrer sa fortune à construire une société plus juste et plus unie, et donc à cofonder le Fonds du bien commun qui agit dans les domaines que je viens d'annoncer. Le Fonds du bien commun est totalement apolitique, et on dialogue notamment dans le domaine de l'éducation, on travaille avec l'éducation nationale, on travaille avec les enseignants, on travaille avec des directeurs d'établissements. Mon homologue ne peut pas être marqué politiquement d'une manière ou d'une autre. Et moi-même, je reçois de nombreuses sollicitations, dossiers dans les différents domaines de la culture, du patrimoine, venant de collectivités, venant de propriétaires, venant d'associations, d'entreprises.
De musées, on en parlera.
De musées. Je ne regarde pas la couleur politique. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité du projet, en quoi le Fonds du bien commun va pouvoir aider le projet à se développer, à toucher davantage de monde pour, en tout cas dans le domaine de la culture et du patrimoine, répondre à notre objectif qui est de partager, de transmettre notre culture, notre patrimoine avec le plus grand nombre de Français, de faire aimer notre histoire et notre patrimoine au plus grand nombre de Français.
Alors justement, nous allons revenir sur le patrimoine et culture qui est votre branche. En deux mots, les trois autres branches, c'est ça, je crois, pour le Fonds du bien commun.
L'éducation, c'est à la fois dire permettre à tous les parents d'avoir ou de pouvoir choisir modèle d'éducation pour leurs enfants, et puis de pouvoir proposer aux enfants des activités extrascolaires. On est ici à Paris où il y a une grande offre d'activités extrascolaires. Ce n'est pas forcément le cas partout en France, notamment dans le milieu rural. Et donc, on soutient un certain nombre de projets d'associations qui proposent des activités extrascolaires, éducatives, culturelles. Domaine de la solidarité et de la famille, on soutient par exemple des projets de mode de garde pour des enfants, ce qu'on appelle les bulletins par exemple, pour des enfants qui ont des problèmes de neurodéveloppement. Une association qui s'appelle Mille et un mots pour accompagner les enfants dans l'apprentissage du langage. Voilà quelques exemples d'actions soutenues par le fonds du bien commun. Et le dernier domaine, c'est la croissance humaine et spirituelle. Je crois qu'on est tous faits d'un corps, d'une âme, d'un esprit, et notre âme a besoin de se développer. On soutient aussi des initiatives dans ce domaine pour permettre à chacun de se développer aussi d'un point de vue plus personnel.
Alors maintenant, la culture, le patrimoine. Parlons argent. Le fonds du bien commun, chaque année, c'est combien? Et pour la culture et le patrimoine, c'est combien? Et à terme, ça sera combien?
Alors, pour vous donner une idée, le fonds du bien commun, l'année dernière, en 2023, a soutenu 145 projets pour plus de 40, près de 45 millions d'euros.
Pour toutes les...
Pour les quatre domaines. Dans le domaine de la culture et du patrimoine, on a l'année dernière soutenu des projets pour environ 10 millions d'euros. Et l'objectif dans les 5 ans qui viennent, c'est de pouvoir engager 100 millions d'euros dans le soutien des activités dans le domaine de la culture et du patrimoine.
Donc entre 20 et 25 millions d'euros par an.
Multiplié par deux par rapport à ce qui a été fait en 2023.
Alors cet argent est donné chaque année, c'est une partie des bénéfices de la société de Pierre-Édouard Sterrin, mais à terme, il a dit qu'il donnerait une grande partie de sa fortune pour financer le fonds du bien commun. Est-ce que c'est toujours d'actualité à votre connaissance ?
Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui a été repris par un certain nombre de journalistes dans des interviews, portraits qui ont été faits de lui. Il considère que il n'a pas forcément besoin de toute la fortune et richesse de ses qu'il a gagné avec ses entreprises et ses investissements, et il veut en faire profiter la société pour construire, je vous le disais, une société plus juste, plus unie autour des domaines que l'on a listés, qui sont ceux de la culture, du patrimoine, de l'éducation et de la solidarité.
Donc ce sera un fonds c'est un fonds qui reçoit également d'autres dons que ceux de...
Non, il n'y a pas d'autres financements que ceux apportés par Pierre-Édouard Sterrin
et à terme, ce n'est pas prévu de se développer avec d'autres donateurs éventuellement.
Alors, ce n'est pas prévu pour le fonds. Maintenant, dans les actions que nous soutenons, nous faisons souvent, parfois, appel à d'autres investisseurs
qui passent par le fonds.
S'associer avec le fonds du bien commun pour soutenir un projet.
Et cet argent-là, à terme, ce n'est pas un fonds perdu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'argent. Le fonds du bien commun ne va pas diminuer. Il y a toujours de l'argent qui rentrera, puisque parallèlement, il y a des sociétés qui font gagner de l'argent, qui sont reversées. C'est cela, en fait, le principe.
Oui, tout à fait. Dans le fonds d'investissement, investi dans des entreprises qui gagnent de l'argent et effectivement qui soit reversent des dividendes, soit au moment des cessions rapportent des fonds qui vont permettre de faire vivre le fonds du bien commun.
Alors, parlons des projets. Comment on parlera des projets concrets que vous avez déjà menés, ceux que peut-être que vous allez mener, mais comment sont-ils choisis ? Parce que je suppose que maintenant, il va y avoir beaucoup de gens qui frappent à votre porte.
On a des gens qui frappent à la porte. Maintenant, voilà, le Fonds du bien commun est encore relativement jeune dans le paysage de la philanthropie et mérite encore d'être connu. Et notre entretien aujourd'hui va y contribuer. On a plusieurs, d'abord, différents moyens d'action et différents moyens de choisir ensuite les projets que l'on va soutenir. Le Fonds du bien commun agit globalement de trois manières différentes. D'abord, c'est un acteur philanthropique qui soutient des associations, des projets avec des actions de mécénat très classiques comme le font d'autres acteurs de la philanthropie. Le Fonds du bien commun est aussi un fonds à impact qui investit dans des entreprises, des projets pour les aider à se développer, à croître dans les différents domaines d'intervention. Et puis, dernier mode d'action du Fonds du bien commun, le Fonds du bien commun initie lui-même des projets ou accueille des entrepreneurs qui ont un projet à nous soumettre. On les intègre dans l'incubateur, on les accompagne pendant 4 à 5 mois pour que le projet mûrisse, qu'on s'assure de sa viabilité. Et ensuite, le Fonds du bien commun investit et accompagne ce projet durant ses premières années de vie. Voilà.
Alors,
un exemple parmi d'autres d'un projet qui a été accueilli au sein du Fonds du bien commun il n'y a pas très longtemps. Un projet de création d'une société d'édition et de diffusion de jeux de société, s'adossant à notre histoire, à notre patrimoine, à nos grands événements français, que ce soit littérature ou musique ou peinture.
Ils ont créé des jeux.
Et donc ils vont créer, c'est une création récente, et ils vont effectivement, avec le soutien du Fonds du bien commun, créer et diffuser des jeux qui permettront de découvrir des aspects de notre culture ou des périodes de notre histoire.
Alors prenons cet exemple, c'est un exemple de soutien et de participation qui théoriquement doit rapporter de l'argent et rapporter de l'argent qui sera versé au Fonds du bien commun, ou est-ce que c'est quelque chose à perte que vous, dès le départ, ou c'est vraiment, est-ce que par exemple cette société, c'est vraiment comme un incubateur, comme ce que vous disiez tout à l'heure, comme une business angel en fait?
C'est une société
qui n'a pas objectif de gagner de l'argent.
Qui a pour objectif de gagner de l'argent, tout à fait. Et à un moment donné, de croître, d'être cédé peut-être par le Fonds du bien commun.
C'est ça. Donc en fait, c'est l'objet. Vous en occupez parce que culture et patrimoine, parce que c'est basé sur la culture et le patrimoine.
Ça contribue à notre ambition de faire connaître, mieux connaître et partager notre culture, notre histoire avec tous les Français.
Donc là, c'est de l'investissement dans une société. Alors maintenant, si on regarde le mécénat, j'allais dire pur et simple, est-ce que vous pouvez nous dire quelques actions, quel type d'actions vous avez déjà menées avec le Fonds du bien commun pour le patrimoine et culture? On en avait discuté avant, je crois qu'il y a 2-3 actions. Personnellement, moi, je n'ai rien contre, mais ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, disons, on pourra en parler également. Mais il y a aussi des actions plus vraiment patrimoniales. Alors, dites-nous un peu tout ça et qu'on puisse comprendre un petit peu mieux vos domaines d'intervention.
Écoutez, dans les projets qui ont été soutenus récemment par le Fonds du bien commun, on a été un des mécènes de l'exposition Louis Jeanmot.
Dont j'ai parlé, que j'ai beaucoup apprécié.
Dont vous avez parlé dans la Tribune de l'Art. Et je sais que
je ne savais pas, quand je l'ai vu, je ne savais pas que le Fonds du bien commun avait... Ça devait être écrit dans le catalogue, je n'avais pas fait attention. Et donc voilà, j'avais découvert ça.
Voilà, donc on peut effectivement faire partie des mécènes qui soutiennent des musées dans leur projet d'exposition.
C'est la première exposition que vous soutenez ?
C'était la première exposition qui a été soutenue par le Fonds du bien commun.
Et le musée est venu vers vous ? C'est vous qui êtes allé vers le musée ?
Écoutez, je crois que c'est une rencontre.
Avec Christophe Leribaud, peut-être, à l'époque ?
Avec Christophe Leribaud. Moi, je n'étais pas encore au Fonds du bien commun. Donc, je n'ai pas, je veux dire, tout l'historique de l'histoire du soutien qui a été apporté par le Fonds du bien commun à ce projet d'exposition auquel Christophe Leribaud tenait et qui a été un beau succès parce que l'a réuni 250 000 visiteurs pour un artiste, vous le savez bien et vous l'avez dit, méconnu, oublié. Voilà, cette exposition a permis de le redécouvrir et il tient une place importante dans l'histoire de la peinture, a inspiré les symbolistes.
Ridicule. Mais et vous donnez combien pour une exposition comme celle-ci ? Est-ce que vous donnez les chiffres ou est-ce que c'est les chiffres qui restent secrets ?
Non, on ne va pas trop donner de chiffres, mais voilà, bon, c'était pas les impressionnistes 1874 d'Orsay qui a ouvert il y a 15 jours. C'était une exposition avec un budget moins important.
Est-ce que vous avez d'autres expositions que vous comptez financer
dont
on pourrait déjà parler ou pas ?
Aujourd'hui, non. En termes d'exposition, je n'ai pas d'autres projets, idées d'expositions d'artistes français qui mériteraient d'être soutenus pour les redécouvrir. C'est un peu quand même l'idée du Fonds du bien commun dans son action, de participer à cette redécouverte du patrimoine. Mais vous aurez peut-être des idées.
Je vais vous donner une idée, et ce n'est pas pour vous piéger, j'y pense en ce moment-là. Je sais que le musée de Douai prépare une exposition Nicolas Guibrenet, qui est un artiste du XVIIIe siècle, qui a... Le livre est déjà paru récemment, mais ils ont des moyens assez faibles. Et donc, je vais peut-être suggérer à Pierre Bonheur, son directeur, de se tourner vers vous, parce qu'on ne sait pas.
Pourquoi pas ?
Ça pourrait, ouais.
Voilà, donc des projets, des soutiens d'exposition, soutien à des festivals de musique, notamment, mais aussi à des reconstitutions des sons et lumières avec l'idée de croiser patrimoine, culture, histoire plutôt dans le milieu rural. Je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, l'idée n'est pas je veux dire, de soutenir une offre culturelle qui est déjà très riche à Paris ou dans les grandes villes, mais plutôt de permettre d'apporter une offre culturelle dans des régions qui sont moins riches. Donc soutien de festivals, je pense à un festival par exemple dans le Brionnais, dans les églises romanes du Brionnais, qui permet de faire vivre ces églises et ce patrimoine. Le festival propose, en plus des concerts, la découverte et la visite des églises, met aussi en avant ce patrimoine, notre patrimoine musical. Ou un festival temps suspendu qui se déroule entre l'Indre et la Creuse, qui apporte un certain nombre de concerts et organise des classes de musique d'instruments à cordes pour des élèves issus de ces départements, mais aussi pour des élèves venant de la région parisienne, en les mettant ensemble dans des classes et les invitant à se perfectionner dans leur technique.
Alors vous parliez de festival, vous parliez aussi également de sons et lumières. Alors c'est peut-être là que c'est moins ma tasse de thé. Racontez-nous un peu.
Alors il y a plusieurs projets. D'abord, à l'instar des festivals de musique, on a soutenu plusieurs projets de création de sons et lumières ou de festivals de ciné-scénie très, très locaux. On soutient par exemple les Nuits Contadines, qui est un spectacle qui sera créé à la fin du mois de juillet, qui va raconter l'histoire très riche du Contat Venessin. Ou un autre spectacle dans le Beaujolais, le Serment du Vigneron, spectacle qui a déjà eu lieu en 2023, qui a déjà accueilli plus de 6000 spectateurs, mais qui a l'ambition de se développer encore, qui nous a sollicité, qu'on va accompagner en 2024 pour être encore plus emblématique de l'histoire, avec davantage de participants, de figurants, de décors, de costumes. Et tout ça permet aussi de réunir les habitants autour d'un monument, d'une histoire locale. Et ça nous semble important pour resserrer les liens au niveau local.
En faisant toujours attention au respect du patrimoine, bien entendu. Parce que je pense, ceux qui suivent la Tribune de l'Art savent que j'ai écrit pas mal d'articles sur un château dans le sud de la France qui fait ce genre de choses, des animations, une espèce de parc d'attractions, et qui ne respecte pas le patrimoine. Donc ça, j'espère que c'est quelque chose sur lequel vous êtes très attentif.
Alors d'abord, ce sont des festivals ou des sons et lumières qui sont donnés pendant quelques jours ou quelques semaines. Ce ne sont pas des installations pérennes qui ont vocation à fonctionner toute l'année. Et qui, au contraire, qui ont pour objectif aussi de s'appuyer sur un décor naturel qui est celui d'une façade de château ou d'un lieu naturel.
Alors, maintenant, le patrimoine, c'est aussi la restauration. Est-ce que vous avez des actions dans le cadre de la restauration? Si oui, lesquelles, et sinon, pourquoi?
Non, on a soutenu et on est régulièrement sollicité pour des projets de restauration, restauration de patrimoine religieux ou de châteaux et de monuments. L'année dernière, on a soutenu la restauration d'une chapelle, la chapelle des Feuillants à Poitiers. On soutient aussi un chantier de restauration important qui est celui de la basilique de Fourvière, à Lyon, réaménagement aussi de son musée et du trésor. Pas plus tard que ce matin, on regardait un dossier qui nous a été envoyé pour une demande sur un château en Bourgogne, le château de Collonges en Bourgie, qui a été incendié en 2020 ou 2021. Et qui a besoin de rassembler des financements pour terminer les restaurations suite à cet incendie et rouvrir au public. Il n'était pas ouvert en permanence, il était ouvert 2 mois par an, mais aujourd'hui il n'est plus visitable en l'état. Si on peut participer à cette restauration, on le fera. Il faut qu'on regarde si...
Quels sont les critères que vous regardez pour décider si vous allez aider à la restauration d'un monument ou pas? Est-ce qu'il y a des critères ou est-ce que c'est en fonction du projet?
Non, c'est en fonction du projet. Sur les églises, il y a des besoins très importants. C'est un sujet dont on va parler et on pourra reparler avec le soutien que le Fonds du bien commun a apporté à la Fondation du patrimoine pour le prix Sésame. On soutient quelques projets qui nous semblent particulièrement intéressants parce que susceptibles d'intéresser le public derrière et de faire venir des visiteurs. Le but aussi, c'est que ce patrimoine soit visible, vu et qui revive d'une certaine manière. Pour les châteaux, l'objectif, là aussi, c'est de permettre d'accueillir davantage de visiteurs et aussi de les accueillir peut-être dans de meilleures conditions. C'est pour ça que, dans le soutien à la restauration du patrimoine, il y a d'autres acteurs que le Fonds du bien commun. On n'a pas attendu le Fonds du bien commun. Il y a l'État, il y a les collectivités, il y a la Fondation du patrimoine. Il y a des fondations...
La sauvegarde de l'art français, il y a l'action de Stéphane Bern également.
Il y a la mission patrimoine de Stéphane Bern. Il y a la
Vous travaillez avec tous ces gens-là?
On travaille en tout cas... J'ai rencontré la Fondation du patrimoine, je connais la sauvegarde de l'art français. On échange, on se rencontre, et puis si on peut mener des projets ensemble, comme on l'a fait avec la Fondation du patrimoine pour le prix Sésame,
on le fera. Dites-moi en deux mots ce que c'est que le prix Sésame.
très volontiers.
Cézanne, pardon.
Sésame.
Sésame, pardon.
Sésame. Le prix Sésame, auquel le Fonds du bien commun s'est associé en étant un important soutien financier de la Fondation du patrimoine, vise à identifier et récompenser des projets culturels, éducatifs, sociaux, qui se déroulent dans des lieux de culte, églises, temples, synagogues, tout en maintenant l'activité principale culturelle. Donc, c'est permettre des usages compatibles avec le maintien en activité de ces lieux de culte. Donc, l'année dernière, pour sa première édition, 11 projets ont été retenus et dotés chacun de 20 000 euros. Là, je peux donner un chiffre parce que c'était officiel public. Et parmi ces projets, projet de création d'un centre d'interprétation du vitrail, par exemple, dans une église dans Poitou, ou un autre projet dans la Meuse, donc dans la région Grand Est, d'une association qui s'appelle les Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine, qui est une association qui existe depuis plusieurs années, qui forme des élèves entre 15 et 18 ans à l'histoire de l'art. Et ce sont ensuite ces élèves qui accueillent les visiteurs et leur font découvrir leur église, l'église Notre-Dame de l'Assomption à Mont-devant-Sassay dans la Meuse. Voilà, donc c'est un beau projet, et on va aller les voir avec la Fondation du patrimoine d'ailleurs dans quelques jours pour voir si éventuellement ils peuvent amplifier leur action.
Vous avez déjà travaillé donc avec la sauvegarde du patrimoine ou pas encore ?
On n'a pas encore travaillé concrètement avec la sauvegarde du patrimoine.
Parce qu'ils font justement ce type d'action de découverte auprès des classes, par exemple, avec le plus grand musée de France.
Avec le plus grand musée de France, qui est une très belle initiative qui permet aux jeunes de découvrir le patrimoine qui est souvent caché dans les églises et de choisir celui qui mérite d'être restauré et ensuite mis en valeur.
Sur le patrimoine, vous avez fait le tour des actions que vous faites actuellement. Est-ce que dans le futur, vous avez des projets liés à d'autres actions patrimoniales ?
Alors, on a des projets. On a un sujet qui nous intéresse et nous interpelle, qui est quand même la difficulté que peuvent avoir un certain nombre de propriétaires, voire même de propriétaires privés, voire même de propriétaires publics, de collectivités, pour gérer, exploiter des monuments. Donc il existe des opérateurs dont c'est le métier qui font ça très bien depuis de très nombreuses années, mais ils s'intéressent plutôt aux monuments qui attirent 50, 60, 100 000 visiteurs par an. Pour des monuments qui ne sont pas des grandes destinations touristiques et qui accueillent donc moins de visiteurs, une structure comme celle du Fonds du bien commun, qui reste une structure philanthropique, pourrait peut-être jouer un rôle et proposer une solution pour exploiter un certain nombre de monuments. En tout cas, on y réfléchit. J'ai pas mal de rencontres en ce moment avec des acteurs de ce secteur.
Dans le domaine des musées, donc, on a vu l'exposition Jean Mau, peut-être et certainement même d'autres expositions dans le futur. Sur les acquisitions des musées, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi ?
Alors, on n'a pas à proprement parler des acquisitions dans les musées, mais quand je suis arrivé au Fonds du bien commun, il y a un projet qui m'a été présenté par les équipes, qui partait de l'idée, qui est une réalité, nous avons un riche patrimoine mobilier au sens large, de tableaux, de meubles, de vaisselle, de bijoux, de manuscrits qui passent en vente sur le marché et qui, pour certains, sont ensuite achetés par des étrangers et quittent la France. On a, en tête, bien sûr, l'exemple du Chardin qui vient d'être...
Ce qui parfois est une bonne chose, parce que ça permet de diffuser l'art français, mais pour certains trésors nationaux, il est essentiel, il est important qu'ils puissent être restés dans notre pays, je pense.
Voilà, je crois qu'il faut être, mesuré, voilà, on ne va pas bloquer, il ne faut pas bloquer ce marché.
Il n'est pas question de se bloquer, bien entendu, hein, parce que le marché est international.
Le marché est international et diffuser cette histoire, ce savoir-faire, cet art de vivre à la française à travers le monde est effectivement important. Voilà, maintenant, de temps en temps, on peut regretter que certaines pièces, soit Trésor national, quittent la France. Et là, voilà, le dispositif du Trésor national est là pour...
Il marche d'une certaine manière et des fois, il marche mal. Mais bon. Et des fois, des œuvres, effectivement, qui ne sont pas Trésors nationaux...
Et puis, il y a des œuvres qui ne sont pas des Trésors nationaux. On peut regretter qu'elles soient mises sur le marché et partent. Il peut y avoir de temps en temps, malheureusement, des châteaux qui, au moment des ventes ou des successions... des collections, des meubles, mobiliers qui sont mis en vente. Et donc, voilà, c'est que peut faire le Fonds du bien commun voilà, face à cette situation pour plusieurs choses. Bon, déjà, peut-être maintenir ou aider à maintenir des collections en place dans des monuments. C'est quand même beaucoup plus agréable de visiter un château meublé qu'un château vide.
C'est quelque chose pour lequel la Tribune de l'Art milite beaucoup. Voilà, on évite de vider les châteaux.
Voilà. Donc, est-ce que on peut apporter ou contribuer avec une partie des moyens dont que nous avons à maintenir des collections en France dans des châteaux pour rendre les visites plus attractives? Est-ce qu'on peut participer aussi à l'enrichissement des collections? Quelqu'un m'a soufflé l'idée il n'y a pas très longtemps.
Je me demande bien qui.
de pouvoir peut-être aider les musées qui de temps en temps, ont besoin d'un peu de temps pour réunir des financements, pour acquérir les œuvres et de faire la soudure entre la mise sur le marché, le passage en vente et puis l'acquisition. Pourquoi pas constituer peut-être début de collection pour contribuer à des prêts ou des dépôts d'œuvres importantes de notre patrimoine. En tout cas, c'est des sujets auxquels nous réfléchissons. On n'a pas encore formellement lancé ce projet, mais ça va nous intéresser dans les années, les mois et années qui viennent.
Est-ce qu'il y a des sujets patrimoine et culture dont nous n'avons pas parlé, sur lesquels vous voudriez intervenir?
Bon, on a beaucoup de sujets. Le Fonds du bien commun soutient, vous l'avez évoqué à demi-mot tout à l'heure aussi, un certain nombre de spectacles plus grand public que les sons et lumières ou ciné-scénie que j'évoquais tout à l'heure, et notamment un projet qui en ce moment est visible à Paris, à Saint-Eustache, Luminiscence, qui est... une expérience immersive, spectaculaire, visuelle, musicale, avec des projections sur les voûtes, les colonnes, le narthex, qui magnifie un peu l'architecture. Ça a été donné pour la première fois à Bordeaux fin 2023. C'est aujourd'hui à Saint-Eustache depuis le mois de février. Ça rencontre un grand succès. 90 000 visiteurs à Bordeaux, à Saint-Eustache depuis le lancement au mois de février, déjà près de 50 000 spectateurs. Au-delà du spectacle lumineux, cette mise en lumière des voûtes, des colonnes, c'est aussi la découverte ou la redécouverte de l'histoire, de la construction, de l'histoire de Saint-Eustache, de ce qui s'y est passé. La construction ordonnée par François Ier, tous les grands moments de la vie de Saint-Eustache, le baptême de Louis XIV, l'enterrement de la mère de Mozart, et puis les aspects plus actuels de Saint-Eustache, qui reste une église très tournée vers les arts, y compris avec le retable de Kesselring, par exemple, qui est visible. Et c'est là où ça rejoint aussi le côté soutien à la restauration, entretien du patrimoine. Luminiscence reverse une partie de son chiffre de la billetterie pour des projets de restauration. Luminescence a reversé 100 000 euros à Bordeaux pour la restauration du grand orgue et reversera une partie de la recette de billetterie de Saint-Eustache à Saint-Eustache pour des projets de restauration. Il y a la restauration du grand orgue, un grand orgue classé de Cavaille-École, et puis il y a aussi des restaurations des chapelles qui ont déjà bien avancé,
ouais.
Avec le soutien du World Monument Fund notamment, ouais. Mais il en reste encore
à restaurer, la façade vient juste d'être terminée, ouais. Donc c'est vrai que ça, on voit quand même, comme vous le savez, je suis assez critique de la mairie de Paris, mais c'est vrai que sur les églises, il y a des efforts faits ces dernières années, et Saint-Eustache, qui était quand même dans un état lamentable, est en train de renaître. Il reste des choses à faire et je suis content de voir que vous y participerez.
Voilà, donc avec cette double approche qui est à la fois de transmettre à tous ceux qui viennent voir ce spectacle, que je vous invite à aller voir, on ira ensemble.
Sans doute, c'est vrai qu'a priori, c'est pas le genre de choses qui me tente beaucoup.
Ah, il faut aller le voir, il faut aller le voir en plus quand il y a le grand orgue et la maîtrise de Saint-Eustache. Voilà, où on est en plus dans l'ambiance de cette musique qui a été créée, faite pour résonner sous les voûtes de Saint-Eustache. Voilà, c'est un beau moment. En tout cas, tous ceux qui l'ont vu sont enthousiastes. Et puis, donc, on partage cette histoire et ce patrimoine commun. Et puis, on contribue par ce qui est reversé à l'Église, à l'entretien du patrimoine ou à la restauration du patrimoine, ce qui est important, à côté des autres initiatives qui existent, et notamment ce qui a été initié par le président de la République en septembre dernier sur cette collecte, mais qui n'intéresse pas des grandes églises comme Saint-Eustache, parce que c'est fléché sur...
J'aimerais d'ailleurs savoir où en est ce gros projet de classement d'églises, de récolte, de dons, parce que le président de la République est assez... Excusez-moi, je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux, mais il dit des choses, et puis après, il ne se passe plus grand-chose. c'est assez... je ne sais pas du tout où ça en est. Vous avez des informations?
Écoutez, peut-être là-dessus? Non, j'ai pas d'informations. Non, je pense que, d'abord, cette initiative est particulièrement intéressante et bienvenue. Elle s'inscrit, dans la suite un petit peu de tout ce qui a été fait justement pour braquer le projecteur sur ce patrimoine religieux dont le prix Sésame de la Fondation du patrimoine a été, je pense, un des jalons. Voilà. Ensuite, je pense qu'il nous revient à tous la responsabilité d'en reparler, de rappeler cet effort qui a été consenti, hein, de collecte, certes, mais avec des avantages fiscaux importants. Et au profit de ce patrimoine religieux dans le milieu rural pour des églises qui sont pas toutes classées et qui ne bénéficient pas toutes du soutien de l'État ou des collectivités pour ces restaurations.
Malheureusement, le patrimoine français est très sous-protégé, je le dis souvent et on en voit beaucoup d'exemples.
Pour en avoir échangé avec quelques DRAC récemment, ils sont de plus en plus fréquemment saisis par les maires de dossiers de demande de classement de leurs églises.
Un point intéressant sur lequel il faudrait que je revienne, effectivement, ce qui prouverait que l'annonce du président de la République qu'il y aura plus de protection va peut-être se concrétiser dans ce cas-là. Il faut l'espérer, en tout cas. Pour conclure, est-ce que donc beaucoup de projets, et puis certainement beaucoup de projets à venir, et peut-être que cette émission déclenchera beaucoup de suggestions par des personnes qui souhaiteraient être financées par le Fonds du bien commun. Donc, comment font-elles? Elles envoient un dossier. Est-ce que c'est vous qui décidez? Ou est-ce que c'est un collégial? Comment ça se passe?
Alors, ça dépend des...
Parce que vous pouvez pas, même si vous avez beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas tout dépenser.
Non, il faut effectivement sélectionner. D'abord, le Fonds du bien commun, c'est une adresse Internet avec un site. Et sur le site du Fonds du bien commun, il y a la possibilité de proposer son projet dans les différents domaines dans lesquels intervient le Fonds du bien commun, et donc dans le domaine du patrimoine et de la culture. Et ensuite, en fonction de la nature du projet, si c'est un projet d'une association et donc un soutien, on demande au Fonds du bien commun d'être mécène. On regarde ça en interne avec, Avec les équipes qui, autour de moi, suivent les dossiers patrimoine et culture, et avec la gouvernance du fonds du bien commun, pour les projets plus importants d'investissement, là, c'est un processus beaucoup plus long, plus exigeant, avec des échanges voilà, pour monter un dossier et le présenter à un comité de sélection. Comité de sélection qui regroupe les membres du conseil d'administration, du fonds du bien commun et des experts externes spécialisés, chacun dans le domaine qui vont apporter leur avis et voilà, justifier de l'intérêt de soutenir les projets.
Qui dirige le fonds? C'est Pierre-Yves Sterrin lui-même ou il a délégué quelqu'un?
Non, non, il y a le fonds à sa propre gouvernance avec
Pierre-Édouard, pardon, excuse-moi.
Pierre-Édouard
Pierre.
Avec un directeur général qui est Alban Durostu et puis un conseil d'administration avec Pierre-Édouard Sterrin, mais aussi d'autres membres de ce conseil d'administration qui collégialement décident investissements qui sont faits par le Fonds du bien commun.
Bien, mon général, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Normalement, il devrait y en avoir une autre la semaine prochaine, mais je préfère ne pas trop m'engager parce que je m'étais engagé préalablement à faire des émissions qui n'ont pas eu lieu. En tout cas, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir passé ce bon moment avec vous, d'avoir pu présenter de manière un peu plus précise, le fonds du bien commun et ce que nous souhaitons faire dans le domaine de la culture, du patrimoine, pour rassembler les Français autour de cet héritage commun qui nous permet de mieux vivre ensemble. Je crois qu'on a la chance en France d'avoir un patrimoine riche, vous le disiez, une culture elle aussi très riche, très variée. Je crois que le patrimoine, les Français apprécient notre patrimoine. Voilà, maintenant, il faut que collectivement, effectivement, on le valorise, on le rende accessible au plus grand nombre.
Merci beaucoup.
Merci.